France Inter. France Inter. Le 6-9 du week-end.
Bonjour Alain Baraton.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Jardinier de Versailles, nous sommes donc le 1er janvier et vous souhaitez présenter vos vœux.
Eh bien oui. Tout d'abord mes vœux à l'olivier de Roquebrune-Cap-Martin dans les Alpes-Maritimes. Le doyen de tous les arbres de France qui continuent de fructifier, lui qui approche les 2000 ans. Mes vœux à l'aubépine de Saint-Mars-la-Futaie, petite ville de la Mayenne, qui, bien que fatiguée, continue de fleurir à 1700 ans. Mes vœux au plus imposant de tous les châtaigniers de Bretagne, avec ses 14 mètres de circonférence. Et encore, il mincit, il y a encore une trentaine d'années, il en faisait 20. Il vit sur un terrain de camping situé entre Combris et Pont-l'Abbé, c'est dans le Finistère. Il est âgé, et c'est un minimum d'au moins 1000 ans.
Et vos vœux s'adressent aussi ce matin à ces jeunes arbres d'à peine quelques mois.
Et oui, et qui vont remplacer ceux qui ont été brûlés cet été dans les incendies de forêt. J'en profite pour présenter mes vœux aux pompiers et aux volontaires qui ont tenté de les sauver, à celles et ceux qui plantent des arbres et à tous ceux qui les aiment. Eh bien, j'ai un vœu, voyez-vous, on est dans la pâte de vœux. Moi, j'ai un vœu pour 2023. Que la déclaration des droits de l'arbre, proclamée lors d'un colloque à l'Assemblée nationale le 5 avril 2019, c'est juste une proclamation, eh bien, qu'elle soit officiellement adoptée, et en particulier son article 4, que je vous prie de lire, mon cher Eric.
Alors, je la lis. Certains arbres jugés remarquables par les hommes pour leur âge, leur aspect ou leur histoire, méritent une attention supplémentaire en devenant patrimoine bioculturel commun. Ils accèdent à un statut supérieur engageant l'homme à les protéger comme monuments naturels. Ils peuvent être inscrits dans une zone de préservation du patrimoine paysager, bénéficiant ainsi d'une protection renforcée et d'une mise en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel. C'est dit ce matin.
Et avouez que ça aurait de l'allure que les arbres, enfin, au même titre que les monuments les plus prestigieux de France, je parle des arbres, qui sont extraordinaires par leur taille, leur histoire botanique ou leur rareté, soient elles, eux aussi, protégées par la loi.
La déclaration des droits de l'arbre, selon Alain Baraton. Vos conseils, Alain, à présent. Tiens, on parlait des fêtes de fin d'année, Noël. Mélina, combien de temps puis-je encore laisser le sapin dans mon salon avant de le planter dans mon jardin?
Le minimum. Le sapin n'est pas une plante d'intérieur. Mélina a certainement acheté une plante en pot et c'est tant mieux. Eh bien, la plante commence déjà à souffrir. Nous sommes donc le 1er janvier. Eh bien, allez, laissons passer le week-end, la journée, et puis dès demain, mettons-le dans le jardin. À défaut de le planter tout de suite, mettez-le déjà dehors, sortez-le sur le balcon.
Parce que la chaleur fait tomber les épines.
Hein. Oui, puis un arbre est une plante d'extérieur, c'est pas une plante d'intérieur. Donc, le plus vite possible dans le jardin. Et n'oubliez pas, même si vous le plantez demain, de la arroser copieusement pour qu'il n'y ait pas d'air au niveau des racines, qu'il y aura un vrai contact. Ce n'est pas pour que la plante boive, c'est pour qu'il n'y ait pas d'air.
C'est pour détremper un peu et pas faire de bulles d'air à l'intérieur. On le met dans un seau et on attend, hein, tout simplement. Pierre-Yves, sur le même registre, est-il possible de bouturer un sapin de Noël?
Il serait mieux de le semer, c'est beaucoup plus simple, c'est ce que font généralement les professionnels. Mais je ne vais pas m'embarrasser de détails, car il existe deux techniques pour bouturer le sapin de Noël. Mais vu que ce n'est pas la saison, ça se fait en août-septembre, nous en parlerons en août ou en septembre.
Allez, on termine sur cette thématique de Noël avec la question de Paul. Est-il possible d'évacuer le sapin dans le tas de compost?
Oui, mais en prenant soin, bien évidemment, de le hacher menu pour favoriser sa décomposition. Attention, pas de sapin dans la cheminée, ça encrasse les conduits.
Candice, qui précise qu'elle habite en région parisienne et son céanote, planté en pleine terre depuis 5 ans, se dégarnit beaucoup de l'intérieur. Alors elle dit, je le taille à l'automne, je lui donne de l'engrais organique une fois par trimestre. Que dois-je faire?
M'écouter davantage. Le céanote est une plante à floraison printanière qui se taille après la floraison et pas à l'automne. Donc, il ne faut pas non plus s'étonner que la plante a quelques souffrances ensuite. Et puis, je rappelle également que le cœur, des plantes est toujours dégarni. Faites l'expérience, Eric, aujourd'hui même, plongez la tête dans un arbuste, quel qu'il soit. Évitez les arbustes épineux, bien évidemment. Eh bien, vous verrez que l'intérieur, il n'y a pas de feuilles. Les feuilles se placent de manière à capter au maximum l'énergie solaire. Donc, le cœur est toujours pauvre. Donc là, dans le cas de nos céanotes, oubliez l'engrais, simplement taillez-le après la floraison, allez-y doucement. Mais il est vrai qu'un céanote en fleurs, ils sont le plus souvent rose, bleu ou blanc, c'est quand même joli.
Avec la photosynthèse dont vous nous parlez ici régulièrement. Thierry a reçu pour Noël un bonsaï, un joli petit érable du Japon. Dois-je le garder dans l'appartement ou bien le mettre sur le balcon?
C'est amusant ce que je viens de dire pour le sapin, c'est également valable pour l'érable. L'érable est un arbre. Un érable n'a rien à faire dans un intérieur. Donc il faudra placer placer l'érable à l'extérieur, mais en le protégeant du soleil et en le protégeant du froid et des vents froids. Donc, on le met sur un coin du balcon protégé du froid, éventuellement dans une petite serre en plastique, vous savez, qui permet de protéger vraiment de la froidure. Mais il est vrai que la culture du bonsaï d'érable du Japon n'est pas si compliquée. En respectant quelques règles, on arrose régulièrement au printemps et en été, jamais de soleil direct et jamais de trop de courant d'air froid et de gel.
Et on le redit ici, on ne dit pas bonsaï, mais ça c'est plutôt un film d'action.
Tout à fait.
On dit bonsaï.
Tout à fait. Veut dire d'ailleurs en japonais plante en pot.
Plante en pot et petite plante par déclinaison. Martin, quel soin me faut-il donner à mon poinsettia ?
Alors ça, on en voit partout, c'est la grande fleur de Noël. Donc c'est une fleur qui a des bractées, ce ne sont pas des fleurs, mais des feuilles qui sont le plus souvent rouges, oranges, blanches. C'est absolument extraordinaire. Après la floraison, on voit que les feuilles commencent à tomber. Donc bien après la coloration des feuilles, on coupe court, on réduit. Et puis au printemps, les feuilles vont repousser. La petite subtilité, c'est en automne. 14 heures d'obscurité par jour minimum. Vous le mettez au placard dans l'obscurité la plus complète pendant un mois ou deux en automne prochain et là, il retrouvera ses couleurs. Sinon, ce sera un poinsettia, mais avec des couleurs passables.
J'ai dit poinsettia, oui, c'est poinsettia.
Je ne sais jamais si c'est poinsettia ou poinsettia. Bon. Les auditeurs corrigeront.
Morgane, qui réside dans une maison de ville avec un petit jardin et un seul fruitier, un poirier, qui donne chaque année beaucoup de poires, mais elles deviennent rapidement pourries. C'est systématique. Elles pourrissent avant de mûrir. Avec quelle explication ?
C'est la monoliose, pardonnez-moi. C'est une maladie cryptogamique qui, effectivement, fait pourrir sur le végétal la plante. Et on n'y pense pas, mais les fruits tombent par terre, les feuilles tombent, et puis c'est l'hiver, on passe à autre chose, et le lendemain, la maladie revient, surtout que c'est un petit jardin, il n'y a qu'un seul pied. Donc, surtout, évacuer les fruits sitôt contaminés. J'ai bien dit évacuer, pas le compost, on les met dehors. On ratisse les feuilles sérieusement cet automne, enfin cet hiver, là, nous sommes en plein hiver, on évacue l'ensemble, et surtout au printemps, pas d'arrosage, on évite au maximum le mélange humidité-chaleur et on croise les doigts pour que l'an prochain, cette maladie, ce champignon, ne réapparaisse pas.
Dans le poirier de Morgane, je vois que vous avez une revue, pour terminer, un livre, une revue.
J'étais à Pau il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré deux ravissantes jeunes femmes, Julie et Laetitia, des passionnées de jardin depuis la maternelle. Et elles ont eu l'idée de créer une revue Vert, V-E-I-R, c'est le titre du magazine, c'est le magazine des néo-jardiniers. Eh bien, c'est le numéro 12, l'hiver, c'est drôlement bien fait, c'est très agréable à lire, c'est joliment illustré et je voulais saluer le talent de ces deux jeunes femmes qui ont vraiment fait un travail étonnant. C'est le numéro 12, donc ça existe depuis déjà pas mal de temps. Il y a des conseils, des trucs, des astuces. On y parle nature, on y parle plantes, que du bonheur.
Vert, V-E-I-R, le mag des néo-jardiniers. Le bon conseil d'Alain Baraton. Merci mon cher Alain, à
et
bientôt.
Et tous mes voeux bien sûr à tous.